Je vais essayer d'être humble en disant que la plupart de ce que je viens de dire et de ce que je vais continuer à dire sur le GN, ça s'applique surtout à mon GN, c'est-à-dire les centres, quoi. Voilà, je suis pas un grand connaisseur du GN, je suis un peu l'homme d'un seul GN, quoi.
Thomas Munier, l'homme d'un seul GN.
C'est ça, ouais, ouais. En fait, si tu me vois sur un autre GN, c'est juste que je suis en train de m'entraîner pour les centres, quoi.
Je comprends tout à fait, j'ai vraiment la même sensation depuis quelques temps avec les enfants du désordre, depuis qu'ils sont nés. J'ai vraiment la sensation que je ne fais que nourrir les enfants du désordre, où que je sois et quoi que je joue. Quoi que je joue et quoi que j'organise, c'est toujours un peu les enfants du désordre. C'est ma réalité augmentée à moi.
En fait, sur la possession, il y a cette idée de, comme tu dis, on joue dans un monde, enfin, on dit que le monde est fictionnel, c'est une première couche pour s'autoriser en fait à jouer et s'autoriser à s'exprimer, quoi. Ça me paraît insuffisant en fait. Il faut aussi ce que tu appelles l'alibi, quoi. C'est-à-dire qu'il faut aussi dire que non seulement on dit que c'est pas notre monde, mais on dit que je joue un personnage, quoi. On dit que c'est pas moi.
Ouais.
Et la possession, en fait, c'est l'idée, c'est de pousser cette idée à son paroxysme, en fait, de dire la joueuse n'est pas là.
Ouais.
En fait, dans le chamanisme, t'as ce concept du double lien. C'est un anthropologue dont j'ai oublié le nom qui aimait cette idée. C'est que pour croire, un des rôles du chaman, c'est notamment de te permettre d'entrer en communication avec les esprits qui te possèdent.
Oui.
Et donc pour ça, notamment, il va être possédé par l'esprit qui vit en toi. Et donc, tu vas pouvoir avoir un dialogue avec ton esprit par la voix du chaman, en fait. Le chaman va interpréter ton esprit. C'est très, très important pour que ce lien, et du coup, pour que l'effet thérapeutique de la rencontre avec l'esprit soit total, il faut vraiment que le chaman ne soit plus là, quoi. On ait vraiment l'impression qu'il est disparu, que son esprit soit totalement ailleurs, écrasé, en fait, par ton esprit, quoi, par l'esprit qui te possède, quoi. Alors esprit, c'est un peu, c'est compliqué, c'est polysémique. Dans les centres, on appelle ça les orlas, quoi. C'est un peu plus simple. Si tu veux pouvoir communiquer avec ton orla, il faut que le chaman qui est possédé par ton orla, il faut qu'il disparaisse totalement, quoi. Donc ça passe par un effacement progressif de tout ce que tu es, en fait, de ton identité.
De l'ego.
C'est ça. Et donc, tu as notamment ce rituel en préparation, en fait. Il y a ce qu'on appelle le parcours initiatique. Il est double. Il consiste à rentrer, en fait, dans la forêt, dans le monde de la forêt, progressivement, on va passer de clairière en clairière et on va s'enfoncer de plus en plus. Et il consiste également à te séparer de ton ego. Et pour ça, en fait, il y a le rituel de l'écorce. En fait, il y a quelqu'un qui va arracher ton écorce et qui va t'épousseter, en fait, tu vois, te débarrasser de ta personnalité, quoi. Et tu vas pouvoir évidemment, toi, tu vas contribuer à ça. Tu vas tousser, tu vas éructer, tu vas respirer très fort, tu vas souffler, en fait, pour chasser, en fait.
Je me suis fait retirer mon stérilet cette semaine. Et pour te faire retirer ton stérilet, tu dois tousser. En fait, la gynéco, elle te met un spéculum et elle écarte complètement. Et elle attrape les fils de ton stérilet et elle te dit « tousser ». Et là, tu tousses et elle te le retire à ce moment-là. Et c'est très, très impressionnant à vivre, ce moment de... et là, tu es nu, puisque tu n'es plus protégé. Quelque chose de très puissant là-dedans.
Et là, en fait, la personne te demande, en fait, ton autorisation, en fait, en te demandant de participer.
Oui.
Elle te demande quelque part ta permission. Et t'as, ouais, ta permission et ta participation. Et du coup, c'est flagrant, justement, parce que ce qu'on observe lors de cet atelier, comme tous les autres ateliers, ils sont facultatifs. Tu as des joueuses qui ne vont pas faire les courses. Tousser et tout. Et déjà, ça te donne un premier indice sur qui va laisser sa personnalité sur le côté et qui va embarquer avec.
Ouais.
D'emblée, ça marque presque un divorce, quoi. Enfin, oui, quelque part, quoi. Une tension, effectivement, entre deux types de joueuses. Cette tension qu'il va falloir gérer, quoi. Entre les joueuses qui sont dans le lâcher-prise et celles qui s'accrochent, en fait, qui s'accrochent à leur ego, quoi. C'est le principal challenge, en fait.
C'est très intéressant de ritualiser le passage de l'autre côté et que ça soit marqué par quelque chose que les joueuses un chemin que les joueuses décident d'emprunter ou pas, quoi.
Bah c'est, ouais, c'est parce qu'en fait la question c'est est-ce que les joueuses veulent passer de l'autre côté du miroir en quelque sorte, quoi. Et c'est pour ça que à chaque fois que j'ai un peu forcé les choses, ça s'est pas bien passé pour tout le monde. Donc maintenant c'est très très à la carte, et notamment les ateliers, en fait, je te les présente de trois façons. Et donc, c'est le groupe qui choisit, sachant que c'est le moins 10 ans, c'est-à-dire le plus en contrôle, finalement, qu'est le dernier mot. La fonction, la version la plus en contrôle, c'est qu'on dit les ateliers, c'est un rêve et on joue pas nos personnages dedans. On joue des personnages jetables. Et en fait, quand le jeu commencera pour de bon, on va reprendre nos personnages à nous, quoi. Et c'est un rêve, et ce que tu dis, en fait, ce que tu dis et ce que tu fais pendant ce rêve, c'est pas arrivé, quoi. On n'en tient pas compte plus tard, quoi. Y a la deuxième version, c'est un rêve, donc ce qu'on fait n'est pas vraiment arrivé, mais on joue vraiment nos personnages. Donc c'est une sorte de répétition de la réalité, quoi. Et la troisième version, ouais. C'est pas un rêve, c'est un vrai parcours initiatique, et en fait, le jeu commence déjà. Donc vous jouez vraiment vos personnages. Il y a des moments où vous allez vous dire des mots durs et des mots tendres. Vous allez les faire pour de vrai et il faudra en tenir compte après. Il y a des moments où vous allez vous embrasser, où vous allez vous frapper. Vous le ferez pour de vrai et il faudra en tenir compte après, quoi. Donc là, on donne d'emblée le choix un petit peu. C'est, tu vois là un peu la table de mixage du GN, quoi.
Ouais, bien sûr.
Bon, là, l'idée, c'est que tu laisses la console de mixage au groupe, quoi.
Ok. C'est quoi le théâtre de l'esprit ?
Le théâtre de l'esprit, c'est ce que tu... Pour moi, je dirais que c'est ce que tu te projettes dans ta tête. Et donc, c'est un peu un mélange de ce que toi, tu te racontes et de ce que les autres te racontent et ce que le monde te raconte, quoi. Et y a un vrai enjeu autour de ça dans les centres. Puisque c'est un GN fantastique, tu sais, dans le sens du fantastique de Maupassant et tout. L'idée, c'est qu'il faut réussir à adopter un regard, en fait. Le regard de personnes pour qui le surnaturel, c'est quelque chose qui ne souffre pas vraiment la discussion, quoi. Ce qui est rarement le regard des participants et participantes, hein, que j'ai au centre. Après, j'adore quand j'ai des personnes mystiques sur les centres, parce que pour elles, parce que ces personnes-là, quand elles jouent au centre, en fait, il y a pas de, en fait, elles sont déjà dans le jeu avant que le jeu commence, quoi. Pas un jeu pour elles du tout.
Ouais.
Que la démarche qu'elles ont d'interprétation du monde est préexiste, en fait, à la partie descente. Et c'est ces personnes-là qui vont te chercher les matériaux les plus forts et les plus vrais, en fait, dans les centres. En fait, les centres, ça te révèle qui tu es vraiment. Alors c'est un peu l'arnaque hein, de la possession en fait, c'est-à-dire qu'on fait comme si on n'était pas là, mais en fait t'as pas d'autres matériaux que toi-même quoi. Hein.
Ça veut dire quoi qui tu es vraiment
Disons que en fait je te dis qu'on va rajouter une couche d'étrange, mais en fait on va plutôt enlever une couche en réalité. On va enlever une couche de vernis social et tu vas voir un petit peu plus à l'intérieur de toi-même sur les passages que tu es en train d'emprunter, en fait, sur la transition que tu es en train d'effectuer en tant que personne, quoi. Et c'est très connecté à des... participer au centre, c'est très connecté à des passages que tu dois faire dans la vie. Excuse, hein, c'est vachement décousu. Hein.
Non, pas du tout. Je note tout parce que ça m'aide beaucoup cette idée de rajouter, enlever une couche, rajouter une couche pour en enlever une.
Ça, ouais.
Ça me parle parce qu'en plus, il y a une dualité là-dedans. Il y a une dualité qui dit il faut rajouter quelque chose pour l'enlever, pour enlever autre chose.
Ouais.
Et qu'il faut raconter une histoire comme quand on n'est pas dans le monde pour accéder à quelque chose qui a l'air d'être plus vrai que le monde d'où on vient, quoi.
Je voudrais donc ajouter un peu quelque chose sur le regard et après on parlera plus, si tu veux, des passages de vie.
Bien sûr.
En fait, il faut rééduquer son regard, quoi, pour voir le surnaturel. Et donc, moi, je propose plusieurs options en début de jeu, mais je vais te dire quelle option a ma préférence. Hein. On peut, t'as l'option vraiment merveilleuse où en fait, tu peux raconter. Là, tu vois un dragon, quoi. Et ça veut dire que s'il y avait une caméra dans le monde fictionnel, elle verrait aussi le dragon, tu vois. Et ça se fait hein, dans certains GN. J'ai vu des GN made fans où t'as des orgas, ils viennent voir les GNistes et puis ils disent « Regardez, là, il y a un dragon et tout, il y a un énorme dragon qui vous survole. » Et donc les gens jouent l'impact, en fait. Ils se mettent à courir, à tirer des flèches, enfin, ce que tu veux, quoi. Ça, cette option, je la propose parce que je pense qu'il y a des joueuses qui peuvent pas faire autrement. Mais oui. L'option qui, moi, ma préférence, c'est l'option on fait vraiment avec ce qu'on a, avec le réel, quoi. Et donc, tout ce qui est surnaturel, c'est juste dans notre regard. Donc, concrètement, ça veut dire que si je te dis il y a un Orla,
ouais.
Bien, s'il y avait une caméra dans le monde, la caméra le verrait pas. Mais c'est que moi, avec mon regard, moi, je le vois. Et toi, quand je te dis ça, c'est à toi de décider. En théorie, c'est à toi de décider si tu le vois ou si tu le vois pas. Mais il y a une règle qui s'appelle « On croit tout ce qu'on nous dit ». C'est vraiment important qu'on se mette dans une situation de crédulité intense, quoi. Si je te dis tu vois un Orla, il faut vraiment que tu le vois en fait. Disons que si tu ce serait sympa que tu le vois, il faut à moins que tu aies vraiment de bonnes raisons, par exemple des raisons de sécurité émotionnelle pour pas le voir, quoi. Après, en fait, grosso modo, ça s'approche beaucoup de techniques immersionnistes. Hein. L'idée, c'est d'avoir. Il y avait je sais plus quel. Je ne sais plus quel manifeste géniste qui disait il faut toujours qu'il y ait un démon dans l'histoire parce que ça rajoute une couche de réalisme magique. Dans le sens où si on te prévient, attention, il y a sans doute un démon, eh ben tu vas tout de suite, ça va reconfigurer ton regard. Et tu vas tout analyser sous le spectre du fantastique. Ça se trouve, il n'y a même pas de démon, tu vois. Après, je sais que je m'autorise quand même une entorse à cet immersionniste, c'est les bruitages bouche. C'est-à-dire qu'on va en lisière de forêt, on fait des bruitages, des animaux, des orlas, des voix, Ou même, je le fais même, si tu veux, par exemple, il y a un moment, je me promène avec une autre personne, et en fait, je lui dis, t'entends, il y a des sirènes qui nous attirent, et là, je fais une mélodie à la bouche. Donc évidemment, la joueuse, elle comprend que cette mélodie, c'est pas moi qui l'a fait, quoi. C'est la mélodie qu'on entend tous les deux, quoi. C'est un peu une entorse, mais ça donne des effets tellement puissants que je me l'autorise, quoi. Et ce que je fais aussi beaucoup, c'est ce que j'appelle la dramatisation voix. C'est-à-dire que je vais... Par exemple, il y a un moment, on pénètre dans une autre dimension, c'est les forêts limbiques, et on affronte quelque chose qui est vraiment indicible. Alors évidemment, il y a les pas immersionnistes qui commencent à dire « Ouais, je vois une créature avec des tentacules, tu vois. » Ça me plaît pas trop. Ce que je fais, en fait, c'est que je décris l'effet que la créature fait sur nous, quoi. Cette créature qu'en fait, on ne peut pas voir, quoi. Je décris l'effet que ça me fait, je parle de ma peur, et puis je dis aux autres de fuir, je suis cloué à terre, et en fait, je me mets à faire des bruits de basse avec la bouche, quoi. Comme ça, enfin, très fort, de plus en plus fort, quoi. Et en fait, pour étranger, hein, tu vois, pour étranger le monde, quoi. Et ça fonctionne bien pour créer une atmosphère de terreur, quoi, faire des bruits à la bouche. Et après, tu peux interpréter que c'est juste la personne qui est... peut dire, c'est un bruit qui est extra-diégétique, ou alors c'est un bruit, c'est la personne qui l'a fait, mais en fait, il faut comprendre que c'est le monde qui fait ce bruit-là. Ou alors, on peut aussi l'interpréter comme étant, la personne est possédée par le lieu, elle se met à faire des bruits, et c'est juste qu'elle est, tu vois, elle est possédée, elle est en état de possession, en état de transe, quoi.
Le monde fait du bruit par ta bouche.
Ah ouais. Et là, ça me permet de passer au passage de vie. J'ai une session. Alors, je te dirai pas quelle session, je te dirai pas à qui, parce que je veux pas outer une personne, tu vois, contre son gré. Mm-hmm. Mais en fait, il y a une session où je pense qu'une personne a utilisé cette session pour avancer dans son questionnement de genre.
Ouais.
Alors, moi, j'ai été témoin latéral de ça. Hein. J'ai mis du temps à comprendre ce qui était en train de se passer. C'est après que j'ai reconstitué. Mais à un moment, la personne me dit je dois partir, en fait. Je dois aller ailleurs. Je dois changer, tu vois. Et donc, la personne traverse un pont. Elle me quitte. Et en plus, c'est vraiment très fort parce qu'on est les deux derniers à rester debout, quoi. Donc, en fait, ça finit avec nous. L'histoire finit avec nous deux. Et puis, concrètement, l'histoire va finir juste avec moi puisque elle part, quoi. Et donc, elle traverse le pont. Et pendant qu'elle traverse le pont, en fait, je joue une mélodie à la bouche, en fait. Alors, c'est un morceau de drone que j'aime beaucoup. C'est du drone mélodique. Donc, t'as des basses très fortes. Mais en même temps, t'as une véritable mélodie, tu vois, avec des notes qui s'émergent. Et puis, à la fin, je fais aussi des chœurs-voix tout seul, quoi. Donc, il y a une espèce de mélange de lourdeur parce que je pense que t'as une certaine gravité, tu vois, enfin, à la fois physique et mentale, à traverser ce pont, à changer de monde, à s'extraire, quoi. Et en même temps, t'as une beauté, ça finit en légèreté, puis en puissance, quoi. Et c'était vraiment gratifiant pour moi de pouvoir faire la bande originale, en fait, de passage, quoi. Ça, c'est quelque chose. C'était quelque chose de vraiment ultra fort. Tu vois, c'est un peu ça le théâtre de l'esprit pour moi, quoi.
Jouer tous, c'est comme... Tu vois, parce que je dis que Jeanne est une pratique individuelle et collective. Et mon idée, ce serait de dire en quoi elle est individuelle et en quoi elle est collective, tu vois. Qu'est-ce qui fait que c'est quelque chose qu'on vit seul? Et tu vois ce que tu me disais sur la personne qui à travers le gène, va vivre quelque chose de très intime. Et, Et qu'est-ce qui fait qu'en même temps, c'est vraiment quelque chose qui te permet de te connecter aux autres sur un plan qui est celui du GN et aucun autre plan, tu vois. Quand tu joues, quand tu vas dans les centres, les personnes avec qui tu es allé dans les centres, tu les connais sous un angle qui n'existe pas ailleurs, tu vois.
En fait, les centres, c'est le dialogue des solitudes. T'as cet effet. C'est le jeu où j'ai le mieux exploité un concept que j'appelle le solipsisme.
Oui.
Donc...
Mais est-ce que c'est le solipsisme philosophique ou c'est autre chose?
Je vais te donner ma définition, puis ouais, tu verras. En fait, l'idée, c'est que le monde, il n'existe que par tes perceptions. Et que par ton interprétation du monde. En fait, le monde est ton interprétation du monde, et il n'y a pas d'autre monde possible. Il n'y a que ton interprétation du monde, quoi.
Ouais. Ok.
Sauf que dans un GN, enfin sauf si on joue au centre en solo, et encore là, il y a un dialogue, je pense, avec les règles du jeu, avec l'univers du jeu. Eh bien, chacun en fait va avoir ses propres centres. C'est très important pour permettre ça que l'univers soit vraiment très très peu défini. Donc je donne juste vraiment des petits éléments de base. Et puis surtout, tous les éléments que je donne, je dis c'est sujet à votre interprétation, quoi. Vous voyez les choses comme vous voulez, quoi. Qu'est-ce que sont les hors-là? Dans quel monde on est? Est-ce que c'est l'ici et maintenant? Est-ce que c'est dans un lointain futur? Est-ce que c'est le passé? C'est vous décidez, mais dans votre tête. Enfin, c'est c'est difficile parce que au début, lors du briefing, tu as des joueuses qui invariablement vont te poser des questions sur l'univers ou te demander de faire valider en fait des choses sur l'univers, quoi. Donc c'est important de dire non, je ne vais rien valider du tout, quoi. C'est tu es seul avec ta vision du monde. Il y a une scène super importante, c'est je suis resté dans l'auberge pendant un bon moment, j'ai pas trop vu ce qui s'est passé au dehors, quoi. Et c'est le moment du repas et tout le monde arrive et tout le monde commence à te raconter ce qui s'est passé dehors, quoi. Et toi t'as pas vu, hein. Donc tu sais pas comment ils ont fait, s'ils ont fait les choses avec.
J'adore.
Je ne sais pas si les gens ont utilisé des effets spéciaux, s'ils se sont racontés des choses, enfin comment ils ont vécu, tu vois, avec quel, est-ce qu'ils ont vécu les choses de façon immersionniste ou avec des accessoires ou avec des on dirait que, quoi. Et ils commencent à te raconter des trucs de fou qui sont arrivés, quoi. Et donc là, tu te dis, attends, c'est arrivé dans leur tête, c'est vraiment arrivé, quelle forme ça a pris exactement, et surtout à quel point ça se reconnecte avec ma propre vision du monde. Et en fait, tu te surprends à leur dire « Ah oui, mais ce qui vous est arrivé, c'est normal, moi je l'avais prédit. Je savais que, par exemple, un tel me dit « On a été attaqué par des hors-là », et je dis « Bah oui, le problème, c'est qu'on n'est pas assez, en harmonie avec nous-mêmes et avec l'univers, et c'est pour ça qu'on se fait attaquer par des hors-là. » En fait, tout ce que les autres font te rapporter, ça ne fait que nourrir ta mystique personnelle. Ça, en fait, ça la met jamais en porte-à-faux.
En défaut.
Ça la met jamais en défaut. Parce qu'une mystique, en fait, peut pas être contredite. Elle peut être que nourrie, quoi. Et quelqu'un dit quelque chose qui apparemment contredit totalement ta vision du monde, mais non, en fait, tu te rends compte juste que les choses évoluent, quoi. Ou éventuellement, tu peux... Ou que la personne se trompe, mais si elle se trompe, il y a une raison, tout ça. Tout a une logique, en fait. Aucun espace pour le doute. Et ça, en fait, ça contribue au théâtre de l'esprit, à l'effet magique et à l'éducation de ton regard, quoi. Et en même temps, c'est une véritable tragédie. C'est que en fait, tu vas rester seul, quoi. Enfin, attention, il y a des moments de communion vraiment forts, quoi. Je parle de la personne qui a fait son questionnement de genre. Elle a vécu ça avec d'autres personnes, tu vois. Enfin, il y a vraiment, je pense, des amitiés qui se sont créées. C'est un moment important de leur vie à plusieurs d'entre elles, quoi. Tu vois, moi, par exemple, et ça, je vais le mettre dans les conseils un peu plus, quoi. J'utilise les centres pour revivre des questionnements importants de ma vie, quoi. Donc je vais mettre en place des problématiques actuelles ou anciennes que j'ai. Je vais interpréter des personnes de ma lignée familiale aussi, tu vois. J'ai joué mon père, mon grand-père, ma mère, notamment. Où je vais projeter, en fait, je vais aussi projeter sur les autres. Par exemple, je vais m'adresser à une joueuse, mais dans ma tête, en fait, c'est ma grand-mère, tu vois. Et donc, je vais m'adresser à elle comme si c'était ma grand-mère et je vais plaquer sur elle. Ça, le solstice le permet, tu vois. Je peux même dire des choses sur son caractère. Genre, je peux lui dire, même si elle a jamais fait preuve avant, je peux lui dire, de toute façon, tu te plains tout le temps. Tu vois, parce que ça, c'est un truc que je dirais à ma grand-mère ou que j'ose pas lui dire. D'ailleurs, souvent, c'est j'ose pas lui dire, tu vois. Donc, un truc que je n'ai jamais osé dire à ma grand-mère. Là, je peux le dire à une joueuse, quoi. Et même si c'est pas cohérent avec son jeu à elle, hein, parce que de toute façon, c'est pas grave, tu vois. C'est un dialogue de solitude, donc la joueuse peut très bien se dire pourquoi le personnage de Thomas, il pense ça. Pourquoi il pense que je me plains tout le temps, hein, c'est pas vrai et tout. Et tu m'as servi, à un moment, tu m'as servi, t'as incarné ma grand-mère, quoi, et je te l'ai pas dit. Parce que c'est beaucoup trop douloureux, je peux pas te le dire en fait. Je peux pas te dire. Moi, c'est au-dessus de mes forces de dire. On dirait que t'es ma grand-mère et que tu vas jouer ma grand-mère, quoi. Donc je le fais, mais je te le dis pas, quoi. Et donc moi, je vais progresser dans mon passage de vie, tu vois. Mais je l'aurais fait à ton insu et. Quelque part sans ton consentement, quoi. Sans ton consentement et j'ai envie de dire sans ta complicité. Et c'est ça qui est assez douloureux en fait. Et je pense que c'est un peu la. Il y a une tragédie en fait, la tragédie du masque, quoi. Le fait qu'on se donne des masques, ça nous permet beaucoup de choses, mais en même temps, ça nous coupe les unes des autres. En fait, ce qu'on fait dans les centres, ça ressemble beaucoup à des thérapies de type gestalt ou alors les constellations familiales. Sauf que dans ces thérapies, c'est officiel que c'est une thérapie. C'est officiel que tu vas jouer ma grand-mère et que je vais revivre un moment traumatique de ma vie et que je vais essayer de le revisiter, tu vois.
Qu'est-ce que ça change que ce soit officiel ?
D'un côté, c'est vraiment précieux qu'il y ait le masque, parce que je pense que ça nous permet d'accéder à des guérisons qui nous seraient refusées autrement, en fait. Ça nous permet aussi de faire de la thérapie buissonnière, c'est-à-dire de pas se fier à des institutions qu'elles soient psychologiques ou pseudo-psychologiques, parce que bon, les constellations familiales, c'est quand même c'est assez pas très sérieux, c'est assez dangereux en fait à pratiquer. Ça nous permet en fait, ça qui est amusant, c'est que du coup on dit que c'est un jeu. On fait chacun notre, on utilise les autres pour faire notre thérapie, mais je pense quand même ça on le sait, quoi. Tu sais pas exactement ce que la personne en face de toi explore, Mais tu sais quand même qu'il y a, ce moment thérapeutique. Tu sais quoi, tu sais qu'on fait une thérapie à plusieurs. Ça, tu le sais, quoi. Ça me paraît difficile de passer à côté. On prend soin les unes des autres.
Une sorte de thérapie autogérée.
C'est ça. Mais en même temps, je pense que c'est important qu'une fois que c'est fini, tu aies pris conscience que comme tu as utilisé un masque, tu n'es pas allé au bout. Ça veut dire que tu dois avoir un chemin personnel à faire après, et c'est à toi de voir comment tu vas le faire. Je vais te prendre l'exemple d'un de mes jeux que j'ai réintégré dans les centres, ça s'appelle Ho'oponopono.
Là, oui.
Donc apparemment tu connais.
Ouais.
Bon, je vais résumer quand même.
Vas-y.
À la base, c'est un rituel de guérison qui vient de Polynésie et qui a été un petit peu digéré, tu vois, pour être accessible aux Occidentaux. Donc je t'en donne plutôt la version, on va dire, occidentalisée. Hein, où c'est en grosso modo, s'il y a une personne qui est malade en fait dans ta famille, c'est en fait toute la famille est malade. Et donc il faut guérir toute la famille en même temps. Et en fait la guérison, ça passe pas par un truc, ça passe pas du tout par une thérapie physique ou même mentale. Ça passe par la réconciliation en fait. Il faut qu'on se réconcilie et c'est ça qui va nous guérir. Et donc il y a 4 étapes. Il va falloir que tour à tour on se dise je t'aime. Et pourquoi je t'aime, en fait, je vais devoir te dire merci, et pourquoi je te remercie, je vais te dire je suis désolé, pourquoi je suis désolé, et je vais te demander pardon, et je vais te dire pourquoi je te demande pardon, en fait. Donc ça, je l'ai fait 2 fois. Une fois, c'était un jeu de rôle sur table, c'était pas dans l'univers de Milvaux, mais on jouait des Polynésiens, donc t'avais le masque. Et une fois, je l'ai fait dans l'univers de Milvaux. À chaque fois, c'est extrêmement puissant. Moi, personnellement, je m'en suis toujours servi pour faire un passage de vie, donc j'ai interprété des problématiques qui m'étaient personnelles ou qui appartenaient à ma lignée, tu vois.
Ouais.
Mais l'enseignement, en même temps que ça m'a dit... C'est que, ouais, en fait, avec des étrangers, des étrangères, je peux faire un Ho'oponopono en prenant le masque et tout. Mais j'ai pas la force de le faire avec ma vraie famille, tu vois. J'ai pas la force de dire je t'aime, j'ai pas la force de dire merci, j'ai pas la force de dire désolé, j'ai pas la force de demander pardon. Et j'ai pas non plus la force de demander qu'on me dise la même chose, tu vois.
Ouais.
Et quelque part, c'est ça aussi la solitude du procédé, quoi. Alors, il y a une solution, elle est radicale, mais c'est peut-être ça qui nous attend. Il y a plusieurs solutions radicales, je dirais. C'est de se créer sa nouvelle famille, se dire, en fait, ma famille, celle avec laquelle je peux me réconcilier, c'est ma famille de GN, en fait, tu vois. C'est vraiment finalement on amène à nouer des liens avec les personnes avec qui on a communié par le GN, quoi. Parce que c'est des personnes avec qui on a osé finalement se livrer, quoi.
Ouais.
Donc du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement tu divorces d'avec ta vie réelle, tes traumas réels, et tu vas plutôt épouser ceux du GN, quoi. Parce que ceux-là, tu peux vivre avec. Enfin, c'est qu'une version, tu vois, étranger de ce que tu viens de quitter, quoi. Mais t'opères une transformation. C'est-à-dire que finalement, des fois, le passage de vie, ça veut juste dire, non, on va pas en sortir, tu vois. Peut-être que ce qui est important, c'est de finalement de rester là, de rester dans les centres, et qu'on ne veut pas repartir, quoi. Il y a vraiment la fin des centres est extrêmement ritualisée aussi. Avec il y a ceux qui vont pouvoir quitter les centres parce qu'ils ont fait leur rituel, ils ont fait leur passage, et ceux qui n'ont pas pu faire leur rituel, qui vont rester dans les centres parce qu'ils ont encore quelque chose à y faire, tu vois. Alors le jeu dit qu'il se transforme en Orla, en monstre, mais ça veut dire quoi? Le Orla, c'est l'étranger, ça veut dire qu'ils ont besoin de rester encore étrangers un moment, quoi.
Ok. Merci de partager tout ça avec moi. Comment tu te sens?
Bah écoute, je me sens je me sens un peu flagada, mais ça va bien quoi.
C'est j'ai noté plein de choses, ça va beaucoup m'apporter. Je suis vraiment très touchée que t'aies partagé tout ça avec moi.
Est-ce que je peux dire juste un dernier mot pour conclure du coup?
Bien sûr. Oui.
Parce que ça doit être, je pense que c'est une journée importante là pour moi là. Là cet après-midi, je vais échanger avec une personne qui s'appelle, bon, je vais pas dire son nom parce que si jamais le projet se fait pas, donc une personne qui est étudiante en anthropologie en fait et qui prépare normalement un papier sur les sur la transgression dans le jeu de rôle sur table quoi. Et donc on va parler d'un de mes jeux qui s'appelle C'est la Cante. Et qui est très très transgressif justement et je sais que ça avait il y avait eu des grosses réactions sur Facebook notamment il y avait des gens qui rejetaient beaucoup ça quoi et en fait je sais qu'il y a une personne que j'ai réussi à le calmer en lui disant non mais en fait c'est pas un jeu, tu dois pas voir ça comme un jeu, et puis il me dit ah oui ok, si c'est pas un jeu ça c'est ok. Et dans les centres, t'as vraiment ce challenge de est-ce qu'on dit que c'est un jeu ou pas quoi. Ça c'est vraiment important cette question quoi. Est-ce que c'est un jeu quoi. Alors j'ai tendance à dire que c'est un jeu parce que j'ai envie qu'il y ait plus de gens qui participent quoi. Mais une chose, il y a au moins une personne pour qui c'est pas un jeu. Pour moi, c'est pas un jeu quoi.
Pourquoi ? Qu'est-ce que ça change ? Le fait que pour une personne, ce soit pas un jeu.
Ah, parce que... Si c'est pas un jeu, ça veut dire que c'est pour de vrai.
Ça veut dire quoi ?
Eh ben, ça veut dire que... Ça veut dire que ce qui se passe a des conséquences sur toi, en fait. C'est forcément quelque chose qui va te transformer. Si c'est pas le jeu comme étant futile, quoi. Et aussi, on prétend pas être là pour s'amuser, en fait. À ce qui revient au même, tu vois, on prétend pas. En fait, ce qui avait débloqué la personne, c'est que je dis non, mais c'est la Cante. Évidemment que je le vends pas comme un divertissement, tu vois. On n'est pas là pour se divertir et donc ça veut dire qu'on n'est pas là pour sortir du réel quoi. En fait, tu quittes. Mais après, on devrait peut-être aller plus loin. Hein, si tu vois, on devrait sans doute arrêter de se cacher derrière le masque et puis dire non, on fait des rituels où on est vraiment nous-mêmes quoi. La première étape, et c'est ce qui a été franchi dans C'est la Cante, c'était dire qu'on était nous-mêmes quoi. Qu'on ne jouait pas un personnage, même si c'était dans une fiction, mais après, l'étape suivante, c'est de dire non, on fait des rituels et on est nous-mêmes, quoi. On n'a pas de personnage, quoi.
Je vois.
Comment tu te sens, Lille, d'un côté ?
Je me sens très bien. Je me sens très privilégiée d'avoir partagé ce moment avec toi. Et je pense que pour moi, c'est un moment signifiant avec toi et ça me touche d'avoir vécu ça du coup.
Je te remercie vraiment beaucoup aussi de cet échange. Bon, tu sais que c'est toujours important pour moi de pouvoir parler avec toi et donc c'était... bon, je pense qu'il est peut-être temps qu'on arrête l'enregistrement.
Ouais, vas-y, tu peux l'arrêter.